Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous, à l'écoute de ce bulletin d'information, les principaux titres aujourd'hui. Miloš Zeman en Normandie pour les commémorations du 70e anniversaire du débarquement. Le ministre tchèque de l'industrie et du commerce en Chine et de l'athlétisme, retour gagnant de Barbora Špotáková au javelot. Le chef de l'État, Miloš Zeman, et un groupe de vétérans tchèques de la Seconde Guerre mondiale se sont envolés ce vendredi matin pour se rendre en Normandie où ils doivent participer aux commémorations du 70e anniversaire du débarquement. Avant le décollage, le président a prononcé un discours face à ses vétérans à l'aéroport militaire de Kbeli. Un événement accompagné de musique militaire et de standards des armées tchécoslovaques et tchèques. Il a remercié les anciens combattants et a souligné le prix de la liberté pour laquelle il est nécessaire de se battre. Le porte-parole du chef de l'État en charge des relations internationales a fait savoir que Miloš Zeman pourrait s'entretenir avec Vladimir Poutine en Normandie. Le président rencontrera également son homologue français François Hollande. Un autre voyage, celui du ministre tchèque de l'Industrie et du Commerce, Jan Mladek, qui se rend dans la nuit de vendredi en Chine à la tête d'une délégation de 30 officiels et hommes d'affaires. Le social-démocrate doit rencontrer des dirigeants chinois, notamment certains à la tête des régions les plus prospères du pays, je cite la dépêche de l'agence de presse CTK. Le gouvernement de Bohuslav Sobotka a récemment revu sa politique étrangère vis-à-vis de la Chine, souhaitant privilégier le développement des échanges économiques plutôt que de mettre l'accent sur les droits de l'homme et la situation au Tibet. Ivan Bartoš a annoncé ce vendredi qu'il quittait la direction du parti pirate en même temps que ses adjoints Lenka Wagnerova et Michal Avranek. Sur le réseau social Facebook, il explique assumer l'échec de sa formation aux élections européennes qui a obtenu 4,8% des suffrages et échoué à envoyer un eurodéputé au Parlement européen. Ivan Bartoš, qui était le leader du parti depuis 2009 à l'exception d'un intervalle de 6 mois, assure toutefois rester membre du parti pirate, un mouvement qui milite pour la protection des droits et libertés fondamentales dans le monde numérique et en dehors. Du cinéma, la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland a reçu ce vendredi une récompense à l'ambassade de Pologne à Prague pour son rôle dans le renforcement du prestige de ce pays à l'étranger. Plus tôt, la cinéaste s'est vue remettre une distinction similaire, mais pour le rayonnement de la République tchèque. L'an passé, elle a en effet signé la mini-série Ožitsi Kej, diffusée en France sous le nom de Sacrifice, qui revient sur le destin tragique de Jan Palach. Outre des films pour le cinéma, Agnieszka Holland a également réalisé des épisodes de séries accueillis très positivement par la critique, tels que The Wire, Tremé ou encore The Killing. Du sport, de l'athlétisme et du javelot, Barbora Špotáková a effectué un retour gagnant jeudi soir au concours de javelot du meeting Ligue de Diamants de Rome. Absente des stades l'année dernière en raison de sa maternité, l'athlète tchèque, championne olympique de sa discipline, a largement devancé ses adversaires avec un lancer à 66,43 mètres. Voilà, on termine avec la météo. Chaud, 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 il fait chaud ce samedi en République tchèque avec des températures maximales qui vont de 25 à 29 degrés pour les maximales. Pour autant, il ne faut pas oublier de souhaiter une bonne fête aux Iveta malgré le soleil de plomb qui règne sans partage sur le ciel tchèque. C'en est terminé pour ce bulletin d'information qui vous était présenté par Pierre Ménian. La suite du programme, c'est tout de suite avec Guillaume Narguet aux commandes.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Pierre pour son bulletin d'information et bienvenue à vous, chers auditeurs, chères auditrices, à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague. En cette fin de semaine, plusieurs grands thèmes ont retenu notre attention et notamment tout d'abord la question de la garde alternée des enfants dans les couples divorcés. Jeudi, la Cour constitutionnelle tchèque a rendu deux verdicts préconisant précisément la garde alternée. En d'autres termes, la plus haute autorité de la justice tchèque souhaite que la garde alternée devienne la règle et non plus une exception. Nous ferons donc un point sur la situation. C'est ensuite dans un bar à vin de Prague que nous vous emmènerons, un bar à vin situé au bord de la Vltava, la rivière qui traverse la capitale tchèque, mais un bar baptisé au bord du Rhône, un endroit plutôt original comme vous l'entendrez dans quelques instants. Et puis comme souvent le vendredi, la seconde moitié de l'émission sera réservée à une large revue de la presse tchèque. Les thèmes retenus par Alena Gebertova cette semaine, le personnage controversé que reste Edvard Beneš, le deuxième président tchécoslovaque, l'histoire des Tchécoslovaques disparus dans les goulags soviétiques ou encore la 69e édition du Festival international de musique Le Printemps de Prague. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. Avis entériné sur la garde alternée. Comme annoncé en titre, la Cour constitutionnelle a rendu jeudi deux verdicts allant dans le sens d'un renforcement de la garde alternée dans le cas où les deux parents sont jugés capables de s'occuper de leur enfant, et ce, même si leurs domiciles sont éloignés. Les juges ont en effet considéré que ce mode de garde devait être privilégié à l'avenir car il constitue la meilleure solution pour que la mère et le père puissent prendre part de manière égale à l'éducation de leur progéniture. La Cour précise néanmoins qu'il est important de prendre en compte l'avis de l'enfant concerné avant de prendre une telle décision. Plus de précisions sur le sujet tout de suite avec Lena Sabadel.
Depuis 1998, la législation tchèque préconise la garde alternée, qu'elle considère comme un moyen de supprimer le versement d'une pension alimentaire. Si son recours augmente légèrement chaque année, la garde alternée reste cependant minoritaire puisque en 2013, elle n'a été décidée qu'à 1450 reprises pour 20 650 procédures de divorce. Autrement dit, dans 90% des cas, la garde a été confiée à la mère. Avec ces deux derniers jugements, la Cour souhaite donc inverser la tendance en donnant une plus grande possibilité au père d'élargir la garde de son enfant. Ainsi, la République tchèque tendrait vers le modèle scandinave ou belge qui impose la garde alternée comme solution prioritaire. Les tribunaux suédois appliquent cette solution dans 94% des cas de divorce avec enfant, alors que la moyenne européenne se situe, elle, entre 10 et 15% seulement. Pour le pédopsychiatre Peter Pott, il est important pour la République tchèque de développer la garde alternée.
Je pense que la garde alternée devrait être envisagée dans plus de cas. Je ne milite pas forcément pour ce type de garde, mais il me semble que c'est avant tout une question de collaboration entre les parents. Si l'on compare avec les autres pays, la garde alternée est très peu utilisée en République tchèque et je pense qu'elle gagnerait à être appliquée plus souvent.
Néanmoins, le pédopsychiatre insiste sur le besoin de maintenir une entente cordiale entre les deux parents si ce mode de garde est retenu.
La pire chose qui puisse arriver pour un enfant est qu'il vive dans deux mondes ennemis. C'est le cas par exemple pour des enfants qui vivent une semaine chez leur père et qui ne peuvent pas appeler leur mère, ou qui habitent chez leur mère et sont coupés de tout contact avec leur père, ou qui ne peuvent même pas parler en bien de l'autre parent. Ce sont les enfants qui sont les plus touchés après un divorce.
Cette récente décision de la Cour constitutionnelle va à l'encontre de la tendance en cours dans d'autres pays, comme la France, qui juge cette option trop contraignante et mal adaptée aux besoins de l'enfant. Même si ce type de garde est en progression, d'après le dernier rapport du ministère de la Justice français, avec 17% en 2012 contre 10% en 2003, le sujet continue à faire polémique dans le cadre des discussions sur le projet de la loi sur la famille du gouvernement censé être adopté avant l'été. En effet, malgré la pression du mouvement des pères qui s'était illustré l'année dernière en occupant des grues à Nantes ou encore devant le ministère de la Justice à Paris pour dénoncer la domination des femmes en ce qui concerne la garde des enfants au moment du divorce, le projet de loi est confronté aux vives critiques des professionnels de l'enfance et des juristes qui craignent que la généralisation de la garde alternée soit néfaste et mal adaptée à une époque marquée par une grande mobilité. Reste à savoir si les jugements rendus par la Cour constitutionnelle tchèque auront des répercussions rapides dans un pays comme la République tchèque où l'éducation des enfants reste encore en grande majorité le monopole des mères.
À Prague, au bord du Rhône, situé sur les quais de la Vltava en dessous de la colline de Vyšehrad, le bar à vin Nábřehu Hroní au bord du Rhône est un endroit actuellement très à la mode à Prague. Il y faut réserver sa table plusieurs jours à l'avance et pour cause, outre des vins de la région de la vallée du Rhône, les propriétaires du bar qui fait également boutique, deux amis tchèques amoureux de la Provence, importent une culture et une philosophie française de cette boisson. Les connaisseurs viennent apprécier, les curieux viennent découvrir. Sonia Yaroshova vous emmène faire un petit tour au bord du Rhône qui coule donc désormais au cœur de l'Europe.
La genèse de cette petite entreprise est plutôt atypique du milieu du commerce des vins. À son origine se trouve une association qui organise depuis une trentaine d'années des séjours culturels et éducatifs pour enfants et adolescents, entre autres dans le sud de la France. Karel Karafiat et Philippe Holly, les fondateurs de la société d'importation de vins baptisée Pas à Pas, sont donc deux amis d'enfance qui parcourent la Provence depuis leur plus jeune âge. D'abord comme simples participants, puis en tant qu'animateurs, jusqu'à prendre un beau jour la direction de l'association. Karel Karafiat.
Quand on dit Provence, cela évoque en moi le soleil, une lumière magnifique, le calme, les parfums, le mistral et un bon vin que l'on accompagne simplement avec du pain, de l'huile d'olive ou avec du saucisson. Mais c'est surtout un rythme de vie complètement différent du nôtre.
L'affection pour le pays et les fréquents voyages ont engendré un profond amour du vin local, ainsi que des relations amicales avec les producteurs. Toutefois, au départ, les deux amis ne songeaient nullement à se lancer dans les affaires. Karel Karafiat.
Ce n'était pas notre travail rêvé à la base, ça s'est fait de façon naturelle. Au début, nous emportions du vin pour nous-mêmes, ensuite des amis à nous ont voulu que nous leur en ramenions, jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans la voiture avec une quantité de vin dépassant la limite autorisée. Donc le seul moyen, c'était d'essayer de commercialiser le vin. Et pour l'instant, on dirait que ça marche.
D'autres facteurs contribuent à ce que ça marche. Des détails qui en réalité n'en sont pas et auxquels les Tchèques sont peu habitués dans leurs bars et restaurants, comme par exemple une carafe d'eau sur chaque table. Collaboratrice et collègue des propriétaires, Petra Coufalová poursuit.
On a des vins en bouteille, mais on a aussi des vins en bag-in-box. Et en plus, on a un système assez originel. Ça marche comme un self-service. Vous pouvez vous servir vous-même. C'est-à-dire que des bag-in-box sont dans les frigos et vous servez vous-même dans un verre et vous faites des marques vous-même. Donc on vous donne en confiance, on vous fait en confiance. Donc ça, je pense que c'est assez exceptionnel. Les gens sont très surpris souvent, étonnés. Et ça fait aussi un peu la pub. Donc c'est vrai qu'en ce moment, chaque soir, il y a du monde.
Pour accompagner le vin, saucissons, fromages, rillettes ou olives sont proposés avec du pain et du sel aux herbes, ainsi que des quiches ou des terrines. En saison, des soirées huîtres ont également lieu. Par ailleurs, des dégustations sont régulièrement organisées, par région, par domaine et par cave, également parfois en présence des vignerons français, dont les photographies signées et encadrées décorent le mur peint à la main. Petra Coufalová développe.
Nos vignerons sont des gens très 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 sympathiques. Très souvent, sont des petits producteurs, vignerons indépendants, très familiales. Ce sont des vignes qui se héritent depuis des siècles. Beaucoup de vins sont faits par la façon soit bio, soit biodynamique. Des vins biodynamiques. C'est un peu la magie. c'est vraiment la façon comment élever le vin. C'est pas tout à fait bio, mais il y a des procédures un peu magiques. Ça tient beaucoup au calendrier lunaire.
L'une des devises de l'entreprise est de rompre avec l'idée que se font la plupart des Tchèques du vin français comme d'un produit de luxe réservé aux nantis. Il y a donc un très grand choix de bons vins au verre à des prix tout à fait abordables, tout comme un éventail de grands crus pour satisfaire les clients les plus exigeants. C'est aussi cela qui crée l'atmosphère du lieu. Un rythme de vie provençal et chaleureux règne dans la petite boutique et vous gagne. Ajoutez-y un petit verre de muscat fruité suivi d'un autre de Côte-du-Rhône. Bref, que demande le peuple ?
Voilà, c'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la seconde partie de notre programme. Une seconde partie, comme souvent le vendredi, consacrée donc à la rubrique « Le miroir de la société ». En République tchèque, le deuxième président tchécoslovaque, Edvard Beneš, est toujours perçu comme une figure politique controversée. C'est ce que constate l'auteur d'un article publié récemment dans un quotidien national dont nous avons retenu quelques extraits. La présentation en Tchéquie du philosophe et linguiste américain Noam Chomsky et les réactions qu'elle a provoquées ont été largement commentées dans les médias. Les historiens tchèques ont désormais la possibilité, quant à eux, de dévoiler des détails relatifs aux Tchèques et aux Slovaques disparus dans les goulags soviétiques. Cette information trouve également écho dans cette revue de la presse dans laquelle nous reviendrons enfin sur le prestigieux festival de musique, le Printemps de Prague, dont la 69e édition s'est achevée cette semaine. Cette revue de presse, ou si vous préférez ce miroir de la société, vous est présentée bien entendu par Alena Gebertova.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
Le 28 mai dernier, 130 ans se sont écoulés depuis la naissance d'Edvard Beneš. Le deuxième président tchécoslovaque a exercé ses fonctions entre 1935 et 1938, puis de nouveau, une fois la guerre finie, entre 1945 et 1948. En rappelant cet anniversaire, le supplément Orientace du quotidien Lidové noviny a caractérisé Beneš comme la figure politique tchèque la plus controversée de son époque. Une figure par ailleurs entourée de nombreux mythes. Dans un long article, l'historien Petr Zidek remarque qu'il existe un camp regroupant les sympathisants de Edvard Beneš et un camp de ses adversaires, mais que rares sont ceux qui sont en mesure de le comprendre dans son contexte historique. Petr Zidek remarque sur ce point.
Nous sommes capables de ranger tous les autres hommes politiques tant qu'ils ne sont pas encore tombés dans l'oubli parmi les personnages positifs ou négatifs de notre histoire. Toutefois, Beneš se refuse à des jugements simples. Les opinions divergent aussi chez les historiens, preuve en est avec l'absence de nouvelles biographies ou de conférences pour lesquelles cet anniversaire constitue pourtant un moment opportun.
Petr Zidek note également que le nom d'Edvard Beneš est aujourd'hui évoqué le plus souvent en rapport avec les fameux décrets Beneš et l'expulsion des Allemands des Sudètes de la Tchécoslovaquie, alors que ces décrets concernaient notamment le fonctionnement courant des institutions en exil et les problèmes liés à l'administration du territoire libéré. Il souligne par ailleurs que le président Beneš n'a pas été le père spirituel de l'expulsion mise en place après la Deuxième Guerre mondiale. Plus loin, Petr Zidek caractérise Beneš comme suit.
Beneš avait beaucoup des qualités qu'un bonhomme politique doit posséder. Depuis sa jeunesse, il était persévérant et conscient des buts à atteindre. En 1914, il a saisi l'occasion et au risque de sa vie, ou du moins de la prison, il est devenu un des principaux acteurs des activités de résistance qui ont abouti à la création de l'État tchécoslovaque. Pendant 17 ans, il a été appelé à former, avec beaucoup de succès d'ailleurs, sa politique étrangère.
Enfin, Petr Zidek constate que la politique qu'Edvard Beneš a mise en œuvre après l'instauration de la dictature communiste se présente comme le chapitre le plus discutable de sa carrière politique. L'historien cite alors ce que l'ex-président tchèque Václav Havel a déclaré il y a 20 ans de cela.
Force m'est de constater que notre deuxième président était un grand homme, un grand homme à qui revient le mérite de notre État. Il est tout aussi vrai que l'histoire l'a confronté à plusieurs reprises à des dilemmes aussi difficiles que l'était l'histoire elle-même. S'acquitter des actes de Benesch signifie donc s'acquitter de la cruauté de notre histoire.
Cette semaine, la presse a largement commenté la première présentation en République tchèque de Noam Chomsky. À Prague, le célèbre linguiste et philosophe américain a reçu la plus haute distinction de l'Académie tchèque des sciences et donné plusieurs conférences dans des salles pleines.
À cette occasion, la presse, comme par exemple le quotidien Lidové Noviny, n'a pas omis de remarquer que Noam Chomsky est, je cite, « un des cerveaux les plus influents du monde, qui a toutefois à la fois de fervents sympathisants et de farouches adversaires ».
En Tchéquie, Noam Chomsky a semé la polémique en déclarant que les dissidents dans les pays communistes de l'Europe de l'Est ont moins souffert que ceux d'autres pays, notamment par exemple en Amérique latine. Tandis que Alexander Vondra, ancien dissident tchèque, a catégoriquement refusé les opinions de Chomsky, Jan Ruml, lui aussi ancien dissident, a eu une réaction plus modérée en déclarant pour le site de l'hebdomadaire Tiden.
Pour moi, Chomsky est un intellectuel américain de gauche qui est contre la politique des États-Unis. Sa réaction a donc une certaine logique et je tiens à dire que nous n'avons jamais affirmé que nous ayons particulièrement souffert. Être dissident était un choix libre et nous faisions ce que nous pensions être juste. Personne ne dit que nous avons souffert et je comprends que dans les dictatures latino-américaines, les gens ont beaucoup plus souffert que nous.
Les domaines en venaient informe également de la sortie en Tchéquie de l'ouvrage intitulé « Le dissident de l'Occident » qui constitue une rétrospective de ses critiques de Chomsky. Le journal constate que Chomsky est en fait un dissident car il va à contre-courant en dénonçant le système politique et les valeurs occidentaux. Un autre chapitre de l'histoire tchèque et tchécoslovaque récente est traité dans un article mis en ligne sur le site aktuarnia.cz. Celui-ci se penche sur la disparition pendant la Deuxième Guerre mondiale des milliers de Tchèques et Slovaques dans les goulags de l'ex-Union soviétique. Son auteur, Jan Gazdík, note qu'il a fallu plus d'un demi-siècle avant que les familles puissent prendre connaissance de certains détails relatifs à leurs ancêtres disparus. Il précise.
Des historiens de l'Institut pour l'étude des régimes totalitaires ont enfin pu consulter les archives ukrainiennes du NKVD, le prédécesseur du service de renseignement KGB, et identifier des documents se rapportant aux Tchèques et Slovaques emprisonnés par les Soviétiques. Ils ont été près de 15 000, dont quelques 5 000 juifs, à quitter la Tchécoslovaquie en 1939 pour échapper aux persécutions nazies. L'écrasante majorité d'entre eux ont été victimes des représailles soviétiques. Accusés d'espionnage par le régime stalinien ou dans le meilleur des cas d'avoir passé clandestinement la frontière, ils ont été envoyés dans des goulags disloqués dans les régions les plus éloignées et les plus rudes de l'Union soviétique.
Seuls ceux qui, en 1942, ont rejoint le contingent tchécoslovaque formé après l'attaque des troupes allemandes contre l'Union soviétique ont pu se sauver. Des milliers d'autres Tchèques et Slovaques, à quelques exceptions près, ont péri dans des camps de travail en Sibérie. Jan Gazdík souligne que le travail des historiens de l'Institut pour l'étude des régimes totalitaires, qui consiste à élucider l'atroce histoire des Tchèques et des Slovaques qui ont choisi l'Union soviétique pour fuir le nazisme et qui ont fini dans les goulags, ne fait que commencer. Le quotidien économique Hospodářské noviny a publié dans ses pages culturelles une analyse de la 69e édition du Festival de musique Le Printemps de Prague, événement incontournable qui s'est achevé lundi dernier. Selon son auteur, le pianiste et chef d'orchestre Petr Ježíkovský, le Printemps de Prague reflète la tendance qui se manifeste actuellement dans le monde de la musique. à savoir qu'il y ait plus de professionnels et moins d'artistes d'un style original. Il précise.
Je suis convaincu qu'un vrai artiste doit mûrir et se développer pendant toute sa vie. Pourtant, l'époque actuelle semble ne pas disposer de suffisamment de patience à cette fin. Ainsi, on ne voit que rarement se produire sur scène des interprètes qui possèdent un style irremplaçable. Or, en écoutant les jeunes violonistes ou pianistes d'aujourd'hui, on a du mal à distinguer l'un de l'autre.
Petr Ježikovský admet que le festival Le Printemps de Prague se porte pourtant très bien. La preuve, c'est qu'il existe toujours et que, confronté à la concurrence croissante d'autres festivals de musique locaux, il détient toujours la primauté, tant aux yeux du public que de ceux des musiciens et des partenaires étrangers. En conclusion, il écrit.
À l'heure actuelle, il y a beaucoup d'aspects qui comptent dans le monde de la musique ou qui sont décisifs pour les agences qui ont le principal mot à dire. Les aspects commerciaux sont alors prédominants. On cherche de jeunes stars, de nouveaux visages, une approche peu traditionnelle, et il y a, effectivement, de quoi choisir parmi des musiciens parfaitement préparés sur le plan technique. Il faut pourtant que ce festival et la musique classique en général ne perdent pas leur côté magique et unique. Il faut offrir aux auditeurs des émotions fortes et inoubliables et pas seulement des performances d'interprètes à succès. Et c'est ainsi que s'achève le bloc actualité préparé par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute des programmes en langue française de Radio Prague. Ahoy.